La finance, vous l'avez compris, assure deux fonctions. Orienter l'épargne vers l'investissement et organiser un échange des risques inhérents à toute activité économique. Nous avons dit qu'elle était indispensable et qu'une économie marchande sans finance était une pure utopie, de même qu'une société de troc sans monnaie. Les systèmes monétaires et financiers sont, on l'a vu, intimement liés entre eux par la politique monétaire et par le rôle qui jouent les banques selon qu'elles se contentent de créer de la monnaie ou qu'elles interviennent aussi pour leur propre compte et en créant des fonds d'investissement sur les marchés financiers. Les systèmes monétaires et financiers qui ont été construits dans l'histoire l'ont été avec des conséquences fort différentes sur certaines caractéristiques de la finance de marché et également des conséquences différentes sur la plus ou moins grande facilité avec laquelle se transmettent les crises de la finance de marché vers le reste de l'économie. Le système financier qui s'est progressivement mis en place à partir des années 80, sous l'effet de décisions économiques des États, présente les principales caractéristiques suivantes. Premièrement, l'industrie financière est devenue une industrie globale en un double sens. D'abord, la circulation des capitaux est devenue totalement libre dans une grande partie du monde. L'épargne constituée ici, la monnaie empruntée là, peuvent être investies en titres partout ailleurs dans les pays riches à finances libéralisées. Deuxièmement, les murailles de feu, issues d'une loi américaine, le Glass-Steagall Act, qui a été prise après la crise de 1929. Donc ces murailles de feu élevées entre les banques commerciales et les banques d'affaires ont disparu dans les années 80. Au profit, et 90, au profit de regroupement des banques dans des banques universelles, globales. Les banques peuvent créer de la monnaie pour jouer elles-mêmes sur les marchés financiers par filiales ou départements spécialisés interposés. Elles tirent d'ailleurs aujourd'hui l'essentiel de leurs profits, de leurs interventions sur les marchés financiers et non plus de l'activité de crédit à l'économie. Parce qu'elle est globale, cette industrie financière se caractérise par une grande instabilité des marchés sur lesquels elle intervient. Couplée à la politique monétaire mise en œuvre depuis les années 80 par les banques centrales indépendantes qui n'ont comme objectif que de contrôler l'inflation, ce système présente deux autres caractéristiques. Premièrement, au sein de l'industrie financière, du système financier en général, c'est-à-dire de l'ensemble de l'industrie et de tous les acteurs, épargnants, investisseurs, existent de très importantes asymétries d'information. Tous les acteurs n'ont absolument pas la même information et la même expertise pour traiter cette information. Et ceci permet aux acteurs de l'industrie les mieux informés, c'est-à-dire les grands experts des banques d'affaires, de fabriquer et de vendre au grand public et aux fonds de retraite et d'investissement gérant l'épargne du grand public, des instruments très sophistiqués, habiles mélanges structurés de titres de dette titrisés, un peu d'actions, un zeste d'instruments dérivés, instruments donc complexes dont il est devenu impossible d'évaluer le risque réel. Cela permet aux fabricants de les vendre au fond à un prix excessif, en ce qu'ils sous-estiment largement le risque. Ainsi, ces acteurs des banques d'affaires gardent les profits et transfèrent les risques à la petite épargne. Cela a provoqué d'énormes enrichissements dans l'industrie financière, au profit des acteurs les mieux informés, qui de plus savent se mettre à l'abri dans les cracks et qui jouent à pile, je gagne, face, tu perds. Deuxièmement, les crises de la finance de marché se propagent rapidement jusqu'aux banques commerciales et affectent le système de crédit et donc l'économie dans son ensemble. Et ceci à travers toute une série d'institutions financières non bancaires que l'on qualifie de shadow banking, la banque de l'ombre. Cet ensemble est constitué de fonds d'investissement très divers. Ces derniers rassemblent de l'épargne, empruntent énormément aux banques pour compléter cette épargne, ce qu'interdisait le Glass-Steagall Act, avec ses murailles de feu entre les banques d'investissement et d'affaires et les banques de crédit, et ils placent le tout sur les marchés financiers. Ce comportement de prise de risque excessive, car on sait, ceux qui prennent ces risques, qu'ils vont pouvoir les repasser largement aux autres, a été abondamment alimenté par les politiques monétaires, uniquement orientées par le contrôle de l'inflation du prix des biens et services, et qui ont pratiqué des taux d'intérêt généralement très bas, depuis que la globalisation des firmes et la concurrence internationale acharnée se sont chargées de maîtriser l'inflation du prix des biens et des services. Dans ces conditions, les effondrements inévitables de certains compartiments de la finance de marché, comme la crise des subprimes en 2007, engendrent immédiatement une crise de confiance entre les banques, laquelle engendre une récession. S'agissant enfin des réformes mises en œuvre après la crise de 2008, s'il faut les résumer d'un mot, elles se sont contentées d'augmenter les ratios prudentiels de liquidité et de solvabilité des banques. Ces banques se sont immédiatement empressées de transférer ce coût vers leurs clients. En revanche, les réglementations n'ont pas rétabli de mur entre la finance de marché et les activités de crédit. Si bien que le risque d'une grande crise comme celle de 2008 ne peut absolument pas être écartée.